Fréville PM. Paranormal.
The flying disc has been found.
El Mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Monsieur Page, bonjour.
C'est Monsieur Lacroix.
C'est des belles retrouvailles.
Ben oui, absolument.
Bon, vous allez bien, mon cher
oui,
Page?
Oui, très, très bien.
Oui. Et on va parler de... Ben, avec toi, c'est toujours des dossiers un peu particuliers.
Oui.
Mais il y en a un qui est intriguant depuis nombre d'années. Ça fait quoi? Ça fait bien quatre ans, je pense, que le vol MH370 de la Malaysia Airlines a disparu, finalement, voilà. Des écrans radars. On ne sait pas où est tombé l'avion.
Voilà.
On a retrouvé des morceaux à oui. quelques endroits, mais on ne sait pas où est l'avion.
Sur la côte est de l'Afrique, notamment.
Ouais.
L'île de la Réunion et la côte est de l'Afrique. On a retrouvé à peu près une vingtaine de débris jusqu'à maintenant, lesquels ont été clairement identifiés comme étant des débris de ce 777, ce Boeing 777 ouais. de la Malaysia Airlines. Mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que l'appareil disparaît en mars 2014. On est le 8 mars 2014.
Ouais.
Il y a 239 passagers à bord. Et on sait que dans les minutes qui ont suivi son décollage, l'appareil faisait une liaison Kuala Lumpur en Malaisie vers Pékin. Et quelques minutes après son décollage, quelqu'un volontairement a coupé les balises de transmission. Parce qu'on sait, les gens s'imaginent souvent que le radar transmet ce qui vole en l'air.
Ouais.
Mais en réalité, c'est une vision un peu artificielle. Les appareils sont munis de balises dans la queue de l'avion.
On appelle les transpondeurs. Ouais.
Ouais. Et ce transpondeur envoie des informations télémétriques. Je suis tel avion, je vole à telle altitude, je me dirige bon, à tel ou tel endroit. Et ces informations télémétriques sont transposées de manière artificielle sur l'écran radar. C'est ce que suivent les contrôleurs aériens. Et cette balise de transmission, ce transpondeur, ne peut être fermé que de manière manuelle. Donc, obligatoirement, quelqu'un a, comme on dit, couper la switch pour que ça se produise. Et ensuite, c'est amusant parce que juste avant...
Et c'est là qu'on perd la trace de l'appareil.
Voilà.
On ne sait plus où il est allé ensuite.
Voilà. Donc, il n'est plus couvert par les radars. Et on le mentionnait juste avant d'entrer en onde. C'est vrai qu'il y a deux, trois semaines à peu près, il y a une émission, l'équivalent de 60 Minutes en Australie, qui ont fait un spécial sur le MH370 pour souligner le quatrième anniversaire de sa disparition.
Parce qu'il est tombé dans l'océan Indien.
Et là, les experts qu'on avait réunis, des experts dans le domaine de l'aviation et des technologies disaient, il n'y a pas d'autre possibilité qu'une manœuvre volontaire. On a coupé les transpondeurs de manière volontaire. La façon dont l'appareil a évolué ensuite, on sait qu'il a rebroussé chemin. Il est passé à la limite de l'Inde, de la Malaisie et de la Thaïlande, par exemple.
Ouais.
Et en faisant ça, c'est un peu comme si le pilote s'assurait que la Thaïlande ne prenne pas trop intérêt à la présence de cet appareil-là en se disant « il est en Malaisie ». Et du côté de la Malaisie, on devait se dire « l'appareil passe en Thaïlande, donc c'est pas trop important pour nous ». Donc, en faisant ça, et on sait que le pilote de l'appareil, d'ailleurs, c'est une hypothèse qui avait déjà été évoquée. On se rappelle, au lendemain de la disparition de l'avion, on avait évoqué la possibilité d'une manœuvre volontaire de la part du pilote. On avait retrouvé dans son ordinateur des simulations de vol qui montraient comment on pouvait amener un avion au-dessus de l'océan Indien.
Ouais.
Donc, il y avait des éléments un peu qui allaient dans ce sens-là. Et cette fois-là, encore une fois, il y a quelques semaines, dans cette émission spéciale en Australie, c'est ce qu'on a évoqué. On est revenu sur l'affaire du pilote en disant la seule manœuvre qui peut être possible, c'est qu'il ait volontairement provoqué une décompression à l'intérieur de l'appareil.
Pour faire en sorte que tout le monde perde conscience.
Voilà. Donc, il n'y a pas eu à s'emparer de l'appareil de manière violente.
Mm-hmm.
Et ensuite, il aurait volontairement entraîné l'appareil, il l'aurait fait cracher dans l'océan Indien.
Et une des accréditations à cette thèse-là, c'est le fait qu'on ait retrouvé des pièces de l'avion, justement, à l'île de la Réunion, mais qui n'étaient pas complètement détruites par la force de l'impact. Là.
Voilà.
On peut s'imaginer qu'une aile d'avion ou un empennage ou quoi que ce soit qui frappe l'eau à très grande vitesse, soit complètement pulvérisé dans le fond.
Et la façon dont tu le mentionnes, l'analyse des pièces de l'appareil montre que l'avion, c'est comme, entre guillemets, crashé de façon légère, à moins grande vitesse, et on suppose donc qu'il a volé jusqu'à l'épuisement complet de ses réserves de carburant. Et à ce moment-là, le pilote a probablement amorcé une descente et l'avion s'est crashé dans l'océan. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que mardi dernier, la compagnie, on sait que depuis le mois de février, une équipe américaine recherchait les débris de l'avion. Immédiatement après la disparition de l'appareil, l'Australie avait été un peu les premiers là, en tête de file pour mener des recherches. On avait couvert une région de 120 000 km². Et on avait n'aurait pas retrouvé l'appareil ni les boîtes noires.
Et là, on faisait quoi? C'était des sous-marins?
Voilà. Donc, depuis le mois de février, on avait engagé... En fait, c'était assez intéressant parce qu'on avait proposé... La recherche avait été proposée par une équipe américaine, Ocean Infinity. Et ces gens-là, avec un bateau sur place, utilisaient notamment des robots sous-marins et utilisaient également des sonars latéraux. En fait, le même genre d'équipement qui était beaucoup plus sophistiqué, mais le même genre d'équipement qu'on utilise pour retrouver des épaves, comme dans les années 80-90, on avait utilisé pour retrouver le Titanic, par exemple.
Oui. Donc c'est la même technologie qui avait été utilisée pour le vol d'Air France. Là,
absolument, qui s'était crashé en Amérique du Sud.
Faisait Rio,
absolument. Ouais. Donc, on utilisait cette même technologie-là. Les Australiens avaient commencé d'abord 120 000 km². Et là, cette équipe, elle, dirigeait des recherches dans une région un peu plus au nord. Ils ont passé 20 000 km². L'entente avec le gouvernement malaisien était si on trouve les débris de l'appareil ou les boîtes noires, ils recevraient un montant forfaitaire. Mais c'était essentiellement avec clé en main de la découverte de quelque chose. Si on trouvait rien, on ne versait pas un sou.
Mais qui payait pour ça?
L'équipe elle-même. Donc, compagnie, en fait, c'était un peu un coup de dé. Si on retrouve quelque chose, on va toucher des millions, mais si on trouve rien, on touche
rien. On perd des millions.
Voilà. Et là, la compagnie était en place depuis le mois de février. Ils devaient terminer en avril les recherches. Le gouvernement malaisien et cette compagnie ont décidé d'étendre un peu les recherches jusqu'à maintenant. Et puis, mardi dernier, la compagnie Seabed Infinity...
Autrement dit, ils n'ont rien trouvé.
Non, voilà. Ils se sont, ils n'ont rien retrouvé. Et on dit, bon, écoutez...
C'est un mystère incroyable, ça.
Ça demeure le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Parce que je pense que beaucoup de gens...
Il y avait Emilia Earhart
en 1937, qui était disparue début juillet, qui disparaît. Ouais. Et elle disparaît entre un vol entre La Haye et l'île Orland, au-dessus du Pacifique.
Mais elle, on pense qu'on l'a retrouvée maintenant.
Voilà, ça, c'est amusant parce que là, on vient de faire... On avait déjà trouvé une petite île, l'île de Nikumaroro, qui est une île abandonnée. C'est un atoll, en fait. Ouais. Et déjà, en 1937, on avait survolé l'île, immédiatement dans les recherches pour retrouver Emilia Earhart. On sait qu'elle devait un peu survoler cette région-là du globe. On avait survolé l'île, on n'avait trouvé aucune trace de survie à ce moment-là et on avait abandonné ça. Et puis en 1940, comme c'est une île abandonnée, en 1940, c'était sous domination britannique. Ouais. On avait entrepris d'installer une communauté insulaire et à ce moment-là, on avait trouvé la moitié d'un squelette à peu près, dont un crâne. Ces ossements-là avaient été étudiés fin 1940, début 1941. On avait conclu que c'était un homme d'une cinquantaine d'années. Mais là, voilà qu'un expert de l'Université du Tennessee s'est repenché sur cette analyse, même si on n'a plus les os. Ouais. On a encore l'analyse de 1940. Et en regardant ça, on s'est aperçu que le médecin légiste de l'époque avait un peu erré sur certains éléments.
Il a peut-être coulé son cours anatomie 101.
Voilà. Et quand on refait, quand on refait ces calculs-là, ben effectivement, cet expert-là, dénommé Jans, le professeur Jans, arrive à la conclusion, avec un degré de certitude de 90%, que les os découverts en 1940 sur l'île de Nikumaroro étaient bel et bien ceux d'Amelia Earhart.
On est content, mais en même temps, ça met fin au mythe.
Ça met fin à un mystère,
toujours,
effectivement.
C'est ça,
mais cette
histoire
du vol MH370, ce qui m'avait frappé, et je pense que beaucoup d'auditeurs également, c'est probablement ce qui les a frappés, c'est comment peut-on perdre un Boeing 777 avec toutes les technologies que l'on a aujourd'hui? On découvre comme ça que finalement, on a toute cette idée qu'on est surveillé de partout, qu'il y a plein de satellites, qu'on est capable de prendre des photographies même de la plaque.
Il y a encore des zones...
Il y a encore des zones grises qui ne sont pas très couvertes par la couverture radar ou la couverture satellite. Et la région de l'océan Indien était l'une d'entre elles et c'est là que l'appareil a disparu.
Bon, est-ce qu'on va tout de suite à l'homme poulet? Allons à l'homme... à la pause, puis on fait l'homme poulet après. OK, on va à la pause, on revient. C'est Donald Pilon qui parle poulet, c'est ça?
Je crois que oui,
alors, donc, il est 14h48, Christian Page. Tu m'as intrigué avec cette histoire d'homme poulet.
C'est vrai que quand je suis tombé sur la nouvelle, au début, je me suis posé la question, c'est quel est le pouvoir d'un homme poulet? Tu sais, on se dit, bon, l'homme araignée, ça fonctionne.
Ça fait pas très super-héros, je m'excuse.
L'homme poulet, ça serait quoi son pouvoir? Il pond des œufs. Tu sais, l'homme poulet. Mais écoute, au-delà de l'aspect un peu cocasse de cette nouvelle, c'est quand même très sérieux. C'est une étude scientifique qui vient d'être publiée dans les pages de Nature.
Ouais.
Et tu vas comprendre, on joue ici un peu avec l'éthique. Hein. Ce sont un groupe de scientifiques qui se sont penchés sur... Bon, on le sait, lorsqu'arrivent les cellules souches et que les cellules souches roches se multiplient. Ouais. Ce que l'on ne comprend pas encore dans le domaine de la science, c'est pourquoi, parce que ces cellules souches semblent programmées et certaines vont devenir éventuellement des cellules nerveuses, d'autres des cellules musculaires, etc. Qu'est-ce qui fait, quel est le mécanisme qui fait que ces cellules-là, qui sont comme multidisciplinaires au départ, vont éventuellement se perfectionner dans une avenue en particulier? Alors, ce que l'on a fait, et là, c'est sûr qu'on entre dans un domaine qui est excessivement éthique, on a pris des cellules humaines modifiées, donc parce que selon l'éthique de la manipulation génétique, on ne peut pas prendre du matériel humain 100%, entre guillemets. Donc, on a pris des cellules humaines modifiées, et parmi ces marqueurs, on avait placé notamment quelque chose qui les rendait fluorescentes pour voir comment elles se multiplieraient. On a mélangé ensuite ces cellules souches humaines modifiées avec des cellules souches de poulet. Et là, on a regardé comment ça fonctionnait. Mais à notre grand étonnement et au grand étonnement des scientifiques, ça a fonctionné. C'est-à-dire que ça a donné naissance à une structure biologique viable. On a même commencé à voir l'apparition d'une colonne vertébrale.
Ben voyons donc.
Oui. Et là, tu te dis, écoute, c'est quand même étonnant. Bien sûr, les scientifiques ont détruit les 10 embryons, donc ce n'est pas demain.
Soi-disant.
Ouais, voilà, ce n'est pas demain qu'on va voir apparaître l'homme poulet. Mais effectivement, quand on regarde ça, moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand même, depuis de nombreuses années, notamment dans les théories du complot, mais évidemment, dans un premier temps, sur le plan humain, on se pose, ça nous ramène un peu à l'idée de l'eugénisme, le contrôle des populations. En fait, ce que Hitler, le grand rêve d'Hitler, cet eugénisme, la race aryenne, les bons aryens.
Et non pas les bons aryens.
C'est ça, les bons aryens. Mais là, évidemment, on se dit, bon, dans quelle mesure on pourra éventuellement contrôler comme ça la machine humaine? Et là, bon, les scientifiques assurent qu'ils ont détruit ces fameux embryons, mais c'est vrai
Voyons, donc c'est voilà, sûr qu'il doit y avoir dans un laboratoire quelque part, en Corée du Nord, ou je ne sais pas dans quelle espèce de pays un peu...
parce que c'est bien de le mentionner.
Délinquant, mettons, là.
Voilà, on se le dit, on se dit, bon, les grands pays occidentaux...
Ou même aux États-Unis,
Oui, voilà, il y a un aspect éthique qui est très surveillé, mais qu'est-ce qui nous dit que dans des laboratoires un peu clandestins, à gauche et à droite, on ne prend pas du matériel humain pour faire de la manipulation
génétique?
Quand
on avait fait Dali à l'époque, là, la première brebis clonée, là...
Tu vieillissais plus vite, en fait. Là, c'est ce qu'on avait découvert. Effectivement, il y avait un état,
Je suis pas sûr que c'était tout légal, sur le départ, là.
Non, effectivement. Et ce qui m'amuse là-dedans, ce qui m'a fait sursauter, c'est en lisant cet article-là, bon, évidemment, on se dit, bon, l'homme poulet, tout ça. Mais c'est vrai que dans le domaine des théories du complot, on regarde au cours des 20 ou 30 dernières années, à plusieurs reprises, il y a des trucs qui se sont produits et où les théoriciens du complot ont favorisé, justement, ce type de manipulation génétique. Je me rappelle, par exemple, au milieu des années 90, je ne sais pas si tu vas te souvenir de ça, il y avait eu l'apparition du Chupacabra.
Chupacabra,
c'était apparu une créature qui était apparue d'abord dans l'île de Porto Rico.
Oui.
Chupacabra, qui veut dire en français le suceur de chèvres. Et bon,
chacun sa vie privée.
T'as tout à fait raison, Louis. Mais lorsque cette créature est apparue, s'attaquait au bétail, elle est apparue aux alentours d'une forêt qui s'appelle la forêt d'El Yunque sur l'île de Porto Rico. Or, dans cette forêt d'El Yunque, qui est une réserve naturelle protégée, il y a un laboratoire de recherche en génétique et en biologie des Américains qui est installé là-bas. Ce qui a fait dire à beaucoup de gens qui ont dit « Est-ce que le Chupacabra, parce qu'évidemment aussi, c'est un mythe, une légende, c'est une histoire un peu le Bigfoot, mais aussi, est-ce que les théoriciens du complot, eux, évoquaient la possibilité qu'une manipulation génétique était avec, comme on avait perdu le contrôle, une thématique souvent utilisée ou récupérée par la science-fiction, le cinéma de science-fiction, et est-ce que le Chupacabra serait pas finalement le
résultat... Une espèce de croisement...
Une expérience génétique qui aurait mal tourné, cette créature se serait échappée des laboratoires pour s'en prendre à des animaux de ferme. Et c'est vrai qu'à quelques reprises, c'est revenu dans la littérature, tu me diras une littérature populaire et un peu de série B, mais quand même, cette idée de manipuler du matériel humain, le mélanger avec du matériel animal et de découvrir au résultat final que ça fonctionnait, qu'il y avait quelque chose, on était en présence d'une mécanique qui était viable, c'est sûr que ça devient un peu inquiétant.
Mais c'est sûr que ça créerait... un monstre pas très beau, là, qu'un poulet, en tout cas.
L'homme poulet.
Je sais pas, l'homme poulet. Bon, il nous reste peu de temps, mais lequel tu veux faire? Là, il reste deux sujets. Là.
Ben, écoute, j'aimerais qu'on parle un peu des univers parallèles, si
allons-y.
Tu veux bien. Écoute, c'est assez... Là, encore une fois, on parle d'une recherche publiée il y a quelques jours à peine dans le Monthly Notices. C'est un périodique scientifique qui est publié par la Société royale d'astronomie.
Ouais.
Et les scientifiques, ce que ce groupe de scientifiques avance, c'est de dire, bon, les extraterrestres, les ovnis, ben, si on s'est toujours posé la question que si on était visité par des extraterrestres, il me semble que s'ils viennent du fin fond du cosmos, ils prendraient plus de temps à communiquer avec nous. Et là, voilà que les scientifiques se disent, ben, peut-être qu'ils viennent pas du fin fond du cosmos. On est peut-être entouré d'univers parallèles.
Oh.
Ils évaluent, en fait, les dernières recherches dans ce domaine-là de la physique quantique semblent indiquer qu'on pourrait être entouré de multivers. Donc, pas un univers, mais un multivers. Donc, il y aurait toutes sortes d'univers nés de plusieurs, peut-être des Big Bang. Mm-hmm. Et chaque univers, bien sûr, serait différent. Dans certains de ces univers, peut-être que la vie serait impossible et dans d'autres, peut-être que la vie pullulerait. Peut-être que ces gens de ces autres dimensions, ces intelligences de ces autres dimensions, pourraient-elles trouver le moyen de pénétrer dans notre dimension? Ce qui fait que...
Donc, serait plus avancé que nous.
Serait plus avancé. Et le voyage, finalement, serait pas si long. Parce que puisqu'ils viennent de l'univers d'à côté, c'est comme franchir le seuil d'une porte. On passe de l'univers A à l'univers B.
Donc, on n'aurait pas besoin de faire des centaines d'années-lumière...
Pour trouver une civilisation intelligente. Elle est peut-être juste à côté de nous, mais simplement...
Mais on s'en rend pas compte.
Voilà, dans un univers auquel on n'a pas accès.
Dans un univers près de chez vous, finalement.
Exactement. Donc, c'est quand même fort intéressant. Et c'est amusant parce que je me rappelle, dans les années 80 à peu près, lorsque l'hypothèse extraterrestre, les gens qui s'intéressaient aux ovnis, l'hypothèse extraterrestre a commencé à s'essouffler, justement à propos de cette argumentation scientifique. On se dit, si les extraterrestres viennent du fin fond du cosmos, pourquoi ne prennent-ils pas plus de temps avec nous? Peut-être viennent-ils
c'est peut-être
d'à côté.
Parce qu'ils n'ont pas de téléphone cellulaire. Christian Page, merci beaucoup.
Merci, Louis.
Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Bernard est de retour à compter de lundi. Nous, on se dit au revoir. Et peut-être au mois de juin, sait-on jamais. Au revoir. Merci d'avoir été là. Bye.